Garonne qui l'eût cru, un documentaire de Nelly Delpos et Marie Chenval.
Quand même impressionnant, quand elle monte, quand on est à côté, ça fait du bruit, quoi. Ça fait un bruit sourd. C'est des graviers qui roulent de fond, je pense, qui font. Ça amène des graviers qui sont plus hauts, ils descendent, ça fait un bruit assourdissant. Ouais. Et surtout quand on voit aussi des troncs qui passent là, ouais, c'est assez impressionnant. Je m'appelle Craco Denis, je suis agriculteur depuis un paquet de temps, maintenant 40 ans. Enfin, ici, je suis depuis 85, en bordure de Garonne, là, sur 800 mètres de bordure de Ripisylve, qui est juste en bordure de Garonne. Et plus après, j'ai une exploitation sur Grenade, là, d'une quinzaine d'hectares aussi, qui est sur Garonne, aussi dans un tournant. On ne parle pas de la Garonne, on dit Garonne. On va voir Garonne, on ne va pas voir la Garonne. C'est comme ça. Enfin, si on dit la Garonne, c'est une faute de syntaxe. Bon. La Garonne est montée parfois, mais elle n'est pas arrivée au niveau des brebis. Quoi. Sauf qu'elle peut y arriver. Les brebis étaient parties, elles avaient suivi la bordure de Garonne, elles étaient au niveau de la réserve, enfin au niveau du ramier de Bigorre, là. Et bon, c'est le hasard, un petit peu, mon frère travaillait à Toulouse, dans une entreprise aussi, qui avait des gars de l'Ariège, et les gars de l'Ariège lui ont dit, pouh, il y a un abat d'eau de l'Ariège, c'est incroyable, il y a de l'eau partout, ça va monter, quoi. Donc il m'a appelé, et... Il m'a appelé, fais gaffe, il me dit, il y a la Garonne qui va monter, sûrement, parce que dans l'Ariège, ils sont affolés, quoi. Donc, en fait, je suis allé chercher, tac, et combien je ne me rappelle plus maintenant, mais quelques temps après, je ne sais pas si c'était dans la nuit, où la Garonne est montée, elle est montée et descendue, quoi, tac, mais elle est montée là où c'est qu'il y avait des brebis, ouais. La météo. De toute façon, l'agriculteur, il est tout le temps avec le téléphone ou il regarde la météo tout le temps. Hein. Donc dès qu'il y a des abats d'eau qui sont sur l'Ariège ou sur les Pyrénées, bon, on surveille. Moi, j'ai un Vigicru, je regarde Vigicru, là, et le niveau au point 9 à Toulouse. Donc quand je surveille, quand il y a 2,20 m là-bas, hop, je descends. Combien d'eau 4 heures après ou 5 heures, tant que ça. Il y a le niveau qui est ici. Il y a un service qui dit que, je ne sais pas si c'est la préfecture qui avertit les mairies. Et les mairies téléphonent aux riverains pour dire attention, il y a des crues, il y a une possibilité de submersion, ça va monter, quoi. Voilà, faites attention. Bon, mais c'est vrai que là, depuis quelque temps, on est assez informé, oui, au niveau des crues. Bon, il faut y être attentif aussi, quoi. Quand il pleut, il faut se méfier. Enfin, autant l'été, quand elle est calme, tant qu'il n'y a pas de. On se dit, tiens, c'est, on dirait le lac, là. Enfin, surtout chez moi, là, comme il y a une île qui s'est formée un peu plus bas, on ne s'imagine pas que quand il y a des crues, c'est impressionnant. Ouais. On ne s'approche pas trop, quoi. On a peur de glisser. Hein. Ouais.
C'est une Garonne. C'est une Garonne. C'est une Garonne. C'est une Garonne.
Le débit moyen annuel de la Garonne sur le territoire de la réserve, il est à peu près à 200 m3/s. On va commencer à parler de crues morphogènes pour des crues qui vont être à 3000 m3/s. Ça correspond à peu près à des crues qu'on dit décennales. Pour information, la crue centennale qui avait marqué les esprits autour de Toulouse en 1875 était une crue avec un débit de 7000 m3/s. Voilà, donc c'est quand même un fort débit qui est un peu catastrophique dans les villes et villages. Il faut savoir que ce ne sont pas des crues qui arrivent, par exemple pour la décennale, ce n'est pas une crue qui arrive tous les 10 ans, c'est une crue dont le débit qui a été défini a une chance de revenir une fois sur 10. Donc sur 10 crues, on sait qu'il y en a une qui va revenir avec tel débit, et c'est la crue de référence pour la crue décennale par exemple. Donc en général, quand on parle de crue annuelle, ce sont des faibles crues. Quand on parle de crue décennale ou cinquantennale ou centennale, c'est des débits qui vont être... très élevé. Geoffrey Grève, je travaille pour l'association Nature en Occitanie, qui est gestionnaire de la réserve confluence Garonne-Ariège. Ce territoire a été classé réserve naturelle, c'est parce que déjà il est remarquable par rapport à la biodiversité qu'il héberge, et ensuite parce qu'il y a des facteurs d'influence ou des menaces qui ont été identifiés par rapport à ce patrimoine naturel. Parmi les menaces, déjà, il faut savoir que la réserve confluente Garonne-Ariège est une réserve qui est aux portes de la métropole de Toulouse. On dit que c'est une réserve périurbaine, donc elle est soumise à une forte fréquentation du public. Donc on peut déjà avoir des petites problématiques locales par rapport au dérangement d'espèces ou de la dégradation de certains habitats. Ensuite, on a d'autres problématiques qui sont moins directes. Et donc la plus évidente, en tout cas, c'est l'incision de la Garonne et de l'Ariège. Cette incision, ça veut dire tout simplement que le lit de ces rivières s'enfonce, et ce qui ne permet plus d'alimenter les zones humides périphériques. Donc historiquement, les rivières débordaient et les crues connectaient les zones humides, donc c'est une sorte de réalimentation. Et maintenant, avec l'incision des lits, les zones humides ne sont plus alimentées. Alors cette incision, elle est due à un phénomène très particulier. Il y a eu beaucoup d'extraction de granulats au sein de la Garonne et de l'Ariège, ça a conduit à un déficit en sédiments. Et de fait, la rivière a compensé en produisant des sédiments, en faisant une érosion verticale. Du coup, le lit s'enfonce et les zones humides ne sont plus connectées.
Oui, après, c'est vrai qu'au niveau de Garonne, moi, depuis le temps que je suis ici, il y a des changements. Hein, on voit des changements, oui. Il y avait de l'élevage, il descendait les vaches en bordure de Garonne aussi, voilà. Et il y avait du gravier, il y avait des plages de gravier, c'était énorme, c'était à 500 mètres d'ici, là. C'était un truc, c'était magnifique comme site, il y avait du gravier partout, dans Garonne. Après, ils ont, dans les années 70, ils ont, il y a eu des autorisations d'utilisation, de sortir le gravier. Donc ils ont sorti le gravier, le site a été détruit, quoi, il a été complètement chamboulé. Enfin, depuis les années 80, on ne sort plus du gravier. Donc il y a du gravier qui arrive, qui se dépose, il y a des plages, pas des plages, mais des îles qui se forment, des bancs de gravier comme ça. Donc il y a une île qui s'est formée un peu plus bas et le niveau est monté.
Lorsque je parle de zones humides, ce sont des zones qui présentent des contextes très humides, comme leur nom l'indique, et qui sont alimentées soit par des eaux de surface, donc ça peut être par les pluies, soit par la rivière, avec les phénomènes de crues, soit par la nappe alluviale, pourquoi pas. En tout cas, ce sont des entités humides, avec où il y a une présence d'eau, soit de manière temporaire, soit de manière permanente, et qui accueillent une biodiversité qui est spécifique à ces conditions aquatiques ou humides. Les crues permettent également d'alimenter donc les zones inondables qui vont jouer un rôle d'éponge, donc de stockage de l'eau de crue pendant l'hiver, pour mon territoire en tout cas, et qui vont le réinjecter petit à petit au cours de la saison d'été, ce qui va permettre de conserver une ressource en eau qui va être utile à toute la nature, dont l'homme, puisque l'homme fait quand même partie de la nature, il ne faut pas l'oublier.
Alors, le fait de sortir le gravier, ça a descendu le niveau, en fait. Mais d'un paquet, quoi. Peut-être. Alors, je sais pas, mais j'ai l'impression que ça a descendu de 2 ou 3 mètres, le niveau. Le fait que ça a baissé, le niveau, la Garonne allait plus vite, et ça mangeait plus. Ça mangeait plus vite, quoi. Ça a fait comme un couloir encaissé, comme ça, et ça va plus vite, et ça mangeait plus. Avant, comme il y avait du gravier au fond, elle montait, elle débordait sur les bordures, la quantité d'eau s'étalait sur une surface importante, et ça courait moins vite, quoi. L'eau, elle passait plus lentement, et ça avait moins de dégâts. C'était submergé, mais ça passait. La quantité d'eau était la même, mais elle passait plus lentement.
Parmi les crues que nous voyons passer sur le territoire, soit de manière régulière, soit de manière très ponctuelle, on parle de crues morphogènes. Ces crues-là, on les désigne comme ça parce qu'elles vont vraiment modeler le territoire, elles vont revoir les limites de leurs berges, elles vont déplacer des sédiments, elles vont créer par exemple des îlots, elles vont déposer des galets, elles vont en reprendre ailleurs. Il va y avoir vraiment un travail de modelage du paysage fait par ces crues morphogènes-là. Aujourd'hui, on a quand même l'image du cours d'eau qui est canalisé par des enrochements ou par des digues, mais il faut savoir qu'un cours d'eau qui est en bon état de santé va beaucoup divaguer de manière latérale, c'est-à-dire que par exemple, en 1950, son cours d'eau les limites de son lit sont dans un endroit particulier. En 2020, eh bien, le lit peut se décaler de plusieurs centaines de mètres à l'ouest ou à l'est ou au nord ou au sud.
Moi, ma cara.
Il y a un ancien de Grenade qui se promène là, qui a, je sais pas, il doit avoir 85 ans ou même peut-être plus. Et en discutant comme ça, il expliquait que ces rangées d'arbres, en fait, c'était une allée d'acacia qui, quand on le prolonge comme ça, en fait, il faisait 150 ou 200 mètres de cette allée. Et quand on l'imagine, le bout de ces 200 mètres-là, il est au milieu de Garonne maintenant. Voilà, ça a mangé peut-être 100 mètres, je sais pas, ou 150 mètres. Parce qu'il y avait un hippodrome, en fait, dans cet endroit-là, dans les années 40, 45. Ouais, une personne qui avait des chevaux, et il avait fait un hippodrome sur sa parcelle, et il faisait des courses de chevaux, oui. Mais bon, on trouve encore des parties de béton, ouais, dans la terre.
Encore aujourd'hui, je pense que les riverains ont encore cette image de la crue comme une catastrophe qu'il faut absolument endiguer et surtout ne pas laisser revenir sur le territoire. Aujourd'hui, avec les différentes études qu'il y a eu sur cette thématique-là, on est de plus en plus dans la connaissance et la compréhension du fonctionnement des rivières et on comprend que si on continue à canaliser ces cours d'eau, si on continue à les endiguer, ça va déplacer des problèmes et ne pas les résoudre. Donc les phénomènes d'endiguement, d'enrochement, en fait, ne font que amplifier le problème pour les territoires qui sont en aval de ces communes-là. On sait que ce sont des aménagements qui sont contre-productifs, parce qu'ils vont accélérer les courants, ils vont accélérer l'érosion de certaines localités dans la rivière. Donc malheureusement, ces aménagements qui ont été fait de manière très réactive sont aujourd'hui complètement néfastes pour la gestion de la ressource en eau et malheureusement pour le patrimoine naturel, pour tout ce qui va être biodiversité liée aux zones humides, on va se retrouver à des zones complètement déconnectées parce qu'elles ne sont plus alimentées en eau et donc des paysages qui vont complètement changer. Aujourd'hui, les services d'État, le monde scientifique commencent à beaucoup communiquer sur les enjeux des crues, sur les bienfaits et sur les bonnes pratiques à avoir pour justement permettre qu'elles reviennent sur le territoire pour réduire l'ampleur de leurs dégâts dans les villages. Donc, on a beaucoup besoin de discuter avec les acteurs locaux pour déjà leur expliquer le fonctionnement et leur expliquer ce qu'on peut faire et surtout les rassurer qu'on ne va pas rapporter la rivière dans leur maison. Et on n'est plus dans une perception de cohabitation, une cohabitation logique et intelligente pour que l'homme puisse maintenir ses activités et pour que le patrimoine naturel, pour le fonctionnement de la nature, puisse quand même continuer à être réaliste. Cette perception de la cohabitation, elle a été mise en place en améliorant la connaissance, mais aussi en améliorant le cadre réglementaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus créer de merlons ou de digues en zone inondable comme ça parce qu'on en a envie. Il faut vraiment avoir une étude d'impact particulière qui va permettre de peser le pour et le contre.
Il faut laisser divaguer, quoi, en fait. Je le comprends comme ça, quoi. C'est pour ça que sur mes parcelles qui sont à Grenade, là, je pense que petit à petit, elles vont disparaître. Ouais. Après, quand elles auront disparu, il y a des maisons qui ont été construites en face, quand même. Alors bon. Mais après, quand les maisons vont être attaquées, je ne sais pas si ce serait surprenant qu'il n'y ait pas quelque chose de prévu pour empêcher que ça emporte les maisons. Ça serait. Voilà, bon, je ne sais pas.
Quand je parle de restauration de zones inondables ou de zones humides, c'était restaurer les moyens de connexion. Donc, c'est-à-dire que l'eau n'arrivait plus sur ces zones-là. Et donc, quand on dit restaurer, c'était faire une incision dans un aménagement particulier pour que l'eau puisse re-rentrer à nouveau de manière naturelle sur ces zones humides. Donc, la restauration des zones inondables, ça avait deux enjeux particuliers par rapport à notre territoire. C'était premièrement, déjà, de restaurer la fonctionnalité de ces zones et donc de conserver un patrimoine naturel lié aux zones humides. Et le deuxième enjeu, c'était vraiment un enjeu plus lié sanitaire pour garder, stocker les eaux de crue sur un territoire naturel au lieu que ces eaux-là se retrouvent dans les villes et villages et dans les maisons des particuliers.
On dit d'un fleuve emportant tout qu'il est violent, mais on ne dit jamais rien de la violence des rives qui l'enserrent. Bertolt Brecht.
Garonne qu'il crut. Nous remercions chaleureusement Denis, Geoffrey, Sarah et Maurice.